multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Ah, le pouvoir du cinéma, celui de s'emparer d'un livre et d'inventer un film, ou celui de révéler, caché dans une fiction, le portrait de l'homme qui l'a filmé. Adapter, révéler, deux verbes incontournables ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour à tous, bienvenue.
Plus vous êtes dans un lieu ouvert, plus les relations intimes sont fortes. C'est lui qui le dit et ce film le prouve. Bonjour Laurent Mauvignier.
Bonjour.
Un cinéaste belge, Joachim Lafaux, s'est emparé de l'un de vos livres. Continuer, une aventure intérieure, une mère et son fils dans les grands espaces du Kirghizistan. Et on aimerait bien savoir comment vous le trouvez, ce film. Continuer sort mercredi prochain. Lui, en racontant les histoires des autres, se raconte finalement beaucoup à l'écran et son dernier film, La Mule, ressemble bien à un autoportrait. Clint Eastwood, grande figure charismatique qui a tout au long de ses films bien brouillé les pistes sur son image. Bonjour Léo Haddad.
Bonjour.
Journaliste à Première, avec vous, nous tenterons de découvrir comment l'interprète de Dirty Harry est devenu le dernier des grands maîtres classiques, comme le qualifient certains. Et cette nouvelle semaine de sortie, beaucoup de portraits, Colette, le facteur cheval, un exilé malien, une femme kazakh ou le sénateur démocrate Gary Hart. C'est parti.
La veille, Samuel et Sibyl se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d'alpage. Les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles, sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes.
Ce sont les premières lignes de votre roman, Laurent Mauvignier, votre dernier roman continué aux éditions de Minuit. Sibyl et Samuel, à cheval dans les montagnes kirghizes, le voyage initiatique d'une bordelaise avec son fils adolescent, un garçon en perdition, déscolarisé, déphasé, désaxé. Déjà, en commençant le livre, vous écriviez en parallèle une version scénarisée que vous avez arrêtée, mais déjà, vous pensiez au cinéma. Vous pensez souvent au cinéma quand vous écrivez?
Pas forcément quand j'écris, mais en tout cas, avant ou entre deux livres, ouais. Le cinéma, moi, il m'accompagne depuis tout le temps. Mais j'ai l'impression que le cinéma, de toute façon, il accompagnait les écrivains avant même l'invention du cinéma. J'ai l'impression que le cinéma, c'est un désir que l'humanité avait depuis très longtemps. Donc la fiction, même chez Racine, je trouve, par exemple, il y a cette idée de quand Théramène raconte la mort d'Hippolyte, moi je vois le travelling, on le voit, enfin vraiment quoi. Et donc c'est très difficile pour moi de penser fiction en écartant des moyens qui seraient pas, au moins mentalement, ceux du cinéma.
Le cinéma comme code de construction d'imaginaire.
Ah oui, complètement. Pour moi, ça participe complètement de la construction de la fiction, mais j'allais dire pas seulement de la fiction, parce que c'est pas simplement une façon, un art de raconter des histoires. C'est aussi, voilà, vraiment comment l'imaginaire se nourrit de ça. Comment l'imaginaire travaille avec un agencement d'images, quoi.
C'est-à-dire, vous écrivez un travelling?
C'est un peu une de mes questions. Évidemment, je sais pas comment ça se passe ou comment ça se. Et pour le coup, ce que j'attends ou ce que j'espère, d'une adaptation d'un roman, c'est comment le cinéma peut me débarrasser des mots pour traduire ça un peu là où la littérature peut pas toujours aller, quoi. Par exemple, les descriptions de visages dans les romans sont toujours assez ratées, quoi. Parce qu'on peut toujours décrire par le menu tout ce qu'on veut. À la fin, le gars, on le voit pas, quoi.
Surtout,
on le voit pas.
C'est surtout très très long. C'est Sabrol qui disait qu'il faut un film entier pour adapter la première page du Père Goriot.
C'est à la fois une des forces du roman et aussi, évidemment, ce petit endroit qui fait que tous les romanciers ont un regard quand même tourné vers le cinéma.
Pardon pour cette question énorme, mais c'est quoi le pouvoir du cinéma par rapport à la littérature?
Mais je crois que c'est de pouvoir justement saisir ces moments un peu entre les mots, de flottement, d'atmosphère, de... Pour moi, quand j'écris, moi, je suis frappé de l'incapacité des mots à nommer ce qu'ils veulent nommer. Donc, pour moi, c'est il y a une façon de tourner autour d'un échec avec les mots. Et c'est pas une théorie de littérature du tout. C'est moi simplement quand je m'y mets, je me dis, je commence à écrire une scène ou essayer de décrire un personnage, par exemple le visage d'un personnage ou un geste, etc. Je me dis que je vais jamais, évidemment, que ça se substitue pas au réel, ça. Et alors je tourne autour. Et puis bon, au bout d'un moment, ça donne quelque chose. Bon, mettons que c'est une scène. Je sais pas, par exemple, d'en continuer la scène des chevaux qui s'enlisent, etc. J'étire ça au maximum parce que comme je me dis que j'y arrive pas. Puis au bout d'un moment, ça fait 10 pages et je me dis bon, peut-être que c'est quelque part dedans. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. En plus, je le dis sans. C'est vrai que je. Il y a toujours ce moment où on se dit peut-être qu'un autre art serait peut-être un peu plus. Ils y arriveront mieux, quoi. Ils auront des vrais chevaux et tout ça, quoi. Peut-être. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça, une espèce d'attente d'un vide à combler. Ouais.
Le pouvoir du cinéma, c'est aussi de résumer en un seul dialogue le passé des personnages, celui que vous racontez sur des dizaines de pages dans votre livre. Continuez donc, extrait mère-fils Virginie Efira Cassé-Motéclin.
J'en peux plus là, Sam. Ça fait des jours que tu me dis pas un mot, et quand tu l'ouvres, c'est pour dire des trucs pareils. Je préfère encore quand tu te tais.
C'est mieux que je ferme ma gueule.
Oui. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai plus quoi faire, là. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Parce que c'est pas moi qui ai toutes ces emmerdes. C'est pas moi qui ai tabassé mon prof. C'est pas moi qui risque la correctionnelle. T'entends ça, tu te rends compte? C'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en l'air.
Toi, c'est déjà fait.
C'est de toi qu'on parle. Réveille-toi, Samuel. Pourquoi t'es comme ça?
Pourquoi je suis comme ça, quoi?
Oui. Dis-moi. Pourquoi t'insultes tout le monde? Pourquoi tu m'insultes tout le temps?
Parce que j'en ai rien à foutre, moi. Parce que j'en ai rien à branler.
Mais arrête!
J'en ai rien à foutre.
Mais tu déconnes, arrête!
J'en ai rien.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voulais? Tu préférais rester avec ton père?
Au moins lui proposer quelque chose, tu vois. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Tu proposes quoi, des connards? Ils connaissent même pas leur
dire. Mais arrête d'être borné comme ça! Mais t'es crétin ou quoi? Pourquoi y a que de la merde qui sort de ta bouche tout le temps?
Qu'est-ce que tu dis là? Arrête! Putain, arrête! Ferme-la! Dégage!
Laurent Mauvigny, je sais que c'est une question d'achat de droit, mais confier son livre à un cinéaste, c'est quand même quelque chose. En l'occurrence, c'est Joachim Lafosse.
Pour moi, la question, c'était de. C'était de trouver un cinéaste qui soit justement qui soit pas dans le trop près d'une volonté de dire les choses par les mots, de faire, là on entend un extrait où on parle beaucoup, mais en fait c'est un film plutôt silencieux. Et moi moi, j'ai toujours l'impression que le cinéma qui s'empare des livres doit apporter autre chose que des mots, quoi.
Bien sûr, oui. C'est un petit peu.
C'est d'abord ce qu'on lui dit. Voilà.
Et vous aviez vu ces films avant?
Oui, j'avais vu ces films. Pas tous, mais. Ouais. Et justement, je me disais, c'est quelqu'un qui a un rapport au non-dit, à la tension, etc.
Énorme.
Moi, c'est bon, voilà. Moi, je travaille sur ça depuis 20 ans. Donc ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé là-dedans. Après, c'est vrai que évidemment, dans un film, c'est complètement différent dans la mesure où autant il y a des choses que le cinéma peut faire, sans doute que la littérature peut moins faire. Autant la littérature, le roman a une énorme souplesse sur son rapport au temps, à la dilatation du temps, à comment on peut dans un seul mouvement faire revenir le passé d'un personnage. Autant le flashback ne pose absolument aucun problème dans un livre parce qu'on peut le faire au détour d'une phrase et revenir. Et autant évidemment au cinéma c'est beaucoup plus difficile, plus lourd à faire. Ça.
En plus, Lafosse a beaucoup asséché le livre, c'est-à-dire qu'il l'a vraiment gardé au présent. Dans ces plaines et ces montagnes, et a complètement éludé effectivement le passé. Ça vous dérange pas?
Non, mais après moi c'est moi ce qui me dérange dans la question des adaptations, c'est quand elles sont j'allais dire sinistrement fidèle à l'anecdote. voilà, moi, la fidélité qu'on peut demander à un roman, c'est d'en capter autre chose que l'anecdote, que les petites histoires que les uns et les autres peuvent se raconter. C'est comment on peut emmener ça ailleurs, dans un autre espace qui serait pour le coup celui du cinéma.
Et vous craignez un cinéaste qui vous adapterait ? Enfin, il y a des cinéastes qui vous feraient peur, et vous diriez, oh, celui-là, ça va être terrible.
Ah ben oui, évidemment.
Ouais. Non, mais parce que... Je vous montre pas de nom, vous voyez.
Enfin, non,
ça peut faire peur, enfin, ça peut inquiéter.
Oui, mais parce que je sais aussi que je rencontre beaucoup de lecteurs, je sais aussi comment parfois il y a certains malentendus. Enfin, pour moi, ce que j'estime être des malentendus. Comment on peut faire une lecture plus psychologique, plus voilà, et qui existent, qui sont possibles, mais qui sont pas les miennes.
C'est l'histoire d'un enfant qui retisse un lien donc avec sa mère, et dans le même temps, celle d'un homme qui découvre que sa mère est aussi une femme. C'est le cœur du film, mais c'était le cœur du livre.
Ah, complètement. Ouais. Mais de toute façon,
là-dessus, la fausse est très juste.
Mais de toute façon, La fosse, on s'est vu une fois, et c'est la première chose dont il m'a parlé, c'est de la mère.
Oui.
C'est de dire, moi...
Qui parcourt son œuvre aussi.
C'est ça, voilà, c'est important.
C'est le moteur du film pour lui, et puis au fond, je crois que ça a été aussi pour moi. C'est ce personnage de mère qui est dans cette bascule dans le regard de son fils, d'être une femme, de redécouvrir une vie de femme, quoi. Et c'est un film sur ça, comme c'était un livre sur cette question-là, quoi.
Alors, plus difficile est l'intériorité des personnages. On va prendre l'exemple, mais avant d'écouter cette scène de repas, et on va vous mettre à nouveau à contribution, Laurent Mauvigné. Vous allez nous lire ce passage du livre qui est un peu dans la tête du garçon, et après, on va entendre la scène. Allez-y.
Pendant le repas, il évite son regard. Mais soudain, il a l'impression que c'est de lui qu'elle parle, avec ces mots russes qu'il ne comprend pas et dont elle abuse. Il lui semble, tant elle n'arrête pas de parler. Oui, elle parle trop, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle peut raconter avec son sourire sur lui, son regard sur lui, et les autres qui se mettent aussi à le regarder, et elle qui lui semble légèrement apitoyée ou condescendante et maternante. Alors, il va faire comme il sait parfois aussi le faire, son regard planté dans le sien, l'interrogeant sans un mot, exigeant le silence ou des explications par la seule insistance des yeux, du visage fixe, de la nuque tendue.
Сибирь, когда будете в Оше, обязательно побывайте в чайхане и попробуйте ошскую шамсу.
Ну, будете в Оше, обязательно попробуйте ошский плов. И из узгенского риса. Даже я такой не умею готовить.
Также я хотел сказать, надо вам обязательно посетить ипподром и посмотреть нашу национальную игру «Улак-Тартыш».
Ну да, отец мне столько о них рассказывал.
Твой отец наш земляк?
Он из Москвы.
Tu parles de moi, là ?
Non, je parle pas de toi.
Samuel, tu sais pas ce que tu parles.
Нет.
Но ты жила здесь.
Нет, я выросла во Франции. Но дома все говорили по-русски.
Ah, хорошо. De quoi tu parles ?
Je parle de ton grand-père.
Tu voudrais pas en profiter pour leur dire que t'as vendu sa maison pour faire ce voyage de merde ?
C'était pour payer ses dettes, surtout. Notre dietouchka n'a aussi le Evo Avrachetsa Slashetmi. Je dis que c'est ton grand-père qui t'a appris à monter à cheval.
Qu'est-ce que ça peut leur foutre à ces arrières ?
Sam, tu arrêtes.
Là, Laurent Mauvigné, entre ce que vous avez lu et ce qu'on entend, c'est assez fort la connexion. Mais surtout, ça doit se lire sur les visages. Et il y a ce jeune acteur formidable qui a ses mots d'éclat.
Ben oui, moi c'est vrai que moi en le voyant, moi il y a deux choses, c'est un petit peu, mais c'est vrai aussi pour le théâtre d'ailleurs d'une certaine manière, pour un écrivain de roman d'abord, c'est comment d'un seul coup la question de l'incarnation, quoi.
Ouais.
Et comment l'incarnation elle peut parfois rendre inutile des paragraphes entiers, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, je le vis pas du tout comme un malheur ou comme une déchéance, mais au contraire, comme je trouve, c'est, moi je trouve ça magique que d'un seul coup, dans le visage de quelqu'un, il y ait tout ce qu'il faut, toutes ces heures, ce qu'on peut passer à essayer de tourner autour de ça, et d'un seul coup, là, vous l'avez là.
C'est pas troublant.
Si, c'est troublant, mais c'est beau, ça. Moi, j'aime bien être troublé, c'est pas, mais c'est précisément ça, moi, qui m'intéresse là-dedans.
J'ai pas évoqué Virginie Efira, qui aimait énormément votre livre.
Ah oui, puis elle, je la trouve absolument magnifique là-dedans, parce que justement, elle a cette puissance comme ça d'expressivité, sans rien faire, presque. On est là, elle est très très juste.
Et le beau paradoxe, c'est que dans le film, on entend une langue qu'on n'entend pas dans le livre. C'est pas mal. C'est de la belle littérature, langue, c'est important. Et on l'entend dans le film.
Tout à fait. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que moi, dans ce qui m'a beaucoup touché pour le coup en voyant le film, c'est que je n'y retrouve pas que ce livre-là, j'y retrouve mes livres.
Ah
en
oui.
fait.
Ouais.
C'est fort, un bon lecteur. Ça, ouais.
Bah, j'y retrouve une ambiance, hein, quelque chose qui est. Alors ça passe par Efira, ça passe par un certain silence, par une certaine façon. Par exemple, la scène du petit déjeuner entre eux,
quand très belle scène, ouais.
Qui est très belle, vraiment très pour moi une très silencieuse. Pour moi, je me sens complètement proche de ce cinéma-là et de cette littérature-là.
On sait ce que le livre doit au film, mais qu'est-ce que le film, à l'arrivée, apporte au livre, finalement? Est-ce que ce sont deux parcours parallèles? Est-ce que ça se complète? Comment ça vit ces deux choses-là?
Ça, je sais pas. Moi, pour moi, c'est. Je suis plutôt dans la question de ce trouble que ça suscite et qui me donne plutôt envie de continuer cette expérience-là. Mais je saurais pas répondre à ça en fait, parce que non, c'est juste un étonnement, oui, un trouble. Un trouble.
Et devenir cinéaste vous-même, de vos propres livres?
De mes propres livres, non. Mais d'autres, oui.
Ah oui, c'est drôle.
Oui, ben non, parce qu'une fois que j'ai fait mes livres, j'y passe beaucoup de temps quand même. Certes. Donc une fois que c'est fini, c'est bien de passer à autre chose.
Et vous qui aimez le cinéma, Laurent Mauvignier, d'abord on rappelle que Continuer sort mercredi prochain. Oui. Joachim Lafosse, vous qui aimez le cinéma, vous devez avoir votre petite et même votre grande idée sur un personnage assez fascinant qui est Clint Eastwood.
Ben oui, comme tout le monde, quoi. Tout le monde a un avis sur. Même en fait, tout le monde a plusieurs avis sur Clint Eastwood,
c'est ça,
en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a les films qu'on aime, qu'on adore, il y a les films qu'on aime pas du tout. Il y a le personnage qu'on adore pour plein de choses, et puis qui nous inquiète un peu, mais qu'on aime ne pas aimer aussi. Alors non, il est extrêmement complexe, extrêmement riche. C'est voilà.
Je crois qu'il l'aime vraiment, parce qu'avant qu'on ouvre les micros, il parlait de lui en disant Clint. Donc oui. Je crois qu'il l'aime bien.
Alors Clint vient de sortir son nouveau film, c'est le 37e. C'est la première fois qu'il joue et qu'il dirige depuis Gran Torino en 2008. Ça s'appelle La Mule. On écoute la bande-annonce.
Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. I didn't deserve forgiveness. This is the last one. So help me God. For what it's worth, I'm sorry for everything.
La Mule a plus de 80 ans, on va dire 88 ans dans la vraie vie d'Eastwood. Earl Stone est aux abois, son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un job de chauffeur, sans le savoir, au moins au début, pour être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Très performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Méfiant, les chefs du cartel lui imposent un supérieur chargé de le surveiller. Parallèlement, un agent de la DEA enquête sur ce cartel, sans compter une autre menace, sa famille, qu'il a délaissée depuis tant d'années pour son travail d'horticulteur. Au-delà de l'intrigue, Léo Haddad, c'est drôle de voir un Eastwood horticulteur.
Oui, c'est pas mal.
La Mule, c'est quand même l'histoire d'un homme qui, à la veille de ses 90 ans, se rend compte qu'il a sacrifié sa famille. Ça serait un peu le cas d'Eastwood?
On sent bien dans le film que s'il revient devant la caméra, c'est qu'il a quelque chose à dire sur lui-même.
Ouais.
De manière assez intéressante, bon, il a fait ses trois derniers rôles. Gran Torino d'abord, Une nouvelle chance, que c'était un film sur le baseball qui est un peu passé inaperçu, c'est pas lui qui l'avait réalisé.
Oui.
Et maintenant La Mule, trois films en 10 ans, c'est très peu. Pendant ce temps, il a fait 5 ou 6 films de metteur en scène en plus. qui adresse cette question-là, la question de ce qu'il laisse derrière lui, de comment il s'est occupé de sa famille, son rapport avec sa fille. Alors, le film Une Nouvelle Chance, c'était vraiment un film sur un rapport avec une enfant, enfin une enfant devenue adulte, une femme, qui est jouée par Amy Adams. Là, il fait jouer sa fille par sa propre fille, Alison Eastwood, donc il y a vraiment clairement une volonté de parler de lui. D'ailleurs, c'est une adaptation d'un fait divers réel, avec un homme qui s'appelait Léo quelque chose, d'ailleurs, Léo, qui avait 90 ans au moment des faits, mais ils ont changé le nom, il s'appelle Earl Stone. Oui. Earl Stone, si on prend les deux premières lettres du prénom et du nom de famille, ça fait East.
Oui.
Donc, je pense qu'il y a un petit signe là-dedans. Après, ce qui est étonnant, c'est que Gran Torino et ce film-là sont écrits par le même scénariste qui s'appelle Nick Chen, qui n'avait pratiquement rien d'autre dans sa vie de scénariste.
Ouais.
Et dans les deux cas, ça n'est pas Eastwood qui lui a commandé le script. C'est arrivé comme ça. Et dans les deux cas, manifestement, c'est trouvé. Eastwood a décidé de jouer, alors dans des époques où il avait théoriquement déjà dit adieu à la caméra, à être devant la caméra.
Oui.
Parce qu'il a trouvé là-dedans des éléments personnels très, très, très puissants.
Par exemple, il dit avant, j'ai été un père et un mari lamentables. J'ai pensé qu'il fallait avant tout être quelqu'un dans la vie, quitte à être une nullité à la maison.
Alors, on ne connaît pas la maison d'Eastwood, on n'y a été ni les uns ni les autres ici. Hein, donc,
oui, ça, c'est le personnage qui dit ça.
Bien sûr. Mais il y a une biographie non autorisée d'Eastwood qui a été écrite en 2002, je crois, par un journaliste américain qui s'appelle Patrick McGilligan, qui est un superbe auteur de biographie. Et qui, cette biographie a été bloquée par des procès pendant des années et des années avant d'être finalement autorisé légalement, enfin judiciairement par la justice, donc considéré comme suffisamment bien travaillé. Dedans, on apprend énormément de choses sur la vie personnelle d'Eastwood. Ce que l'on sait de toute façon, même avant cette biographie, c'est que Eastwood a été marié deux fois, qu'il a eu trois enfants dans le mariage, mais qu'il a eu au moins...
Il en a sept et une huitième qui s'est déclarée récemment.
Voilà. Donc il en a au moins cinq autres.
Je dis ça parce qu'il les a tous amenés à l'avant-première. Ça a l'air très très superficiel, mais en fait, c'est important.
Non, mais c'est très important. C'est très important parce qu'il a effectivement beaucoup d'enfants en mariage. Alors, il a eu par ailleurs une liaison, celle-là très publique, avec une actrice réalisatrice du nom de Sandra Locke, qui est morte très récemment, et qui avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Elle l'a raconté avec beaucoup de douleur dans sa propre biographie. McGilligan en parle beaucoup dans la sienne. C'est très particulier parce que manifestement Eastwood s'opposait complètement à faire des enfants avec cette femme qui était sa véritable compagne toutes ces années-là. Donc c'est une
mais
situation...
c'est maso de faire un film comme ça, alors du coup de vous voyez, de sa part.
Je pense qu'il l'a toujours fait ça.
Ouais.
D'abord, il est maso, il l'a montré à l'écran dès ses premiers films. Hein. Vous savez, quand il joue dans Pour une poignée de dollars, il se fait massacrer, et puis il se fait massacrer dans chacun de ses premiers films, systématiquement. Il y a toujours une immense scène de masochisme dans les premiers films d'Eastwood. En tant que comédien.
Ouais.
son rapport à sa propre image dans les films qu'il réalise, ce qu'on sait déjà avec certitude, et je pense que tous ici on sera d'accord là-dessus, c'est que quand il est à l'écran, quelque chose se passe de différent. Tout d'un coup, son vrai sujet apparaît. Quand il ne joue pas dans ses films comme pendant 10 ans, il perd petit à petit sens, il perd petit à petit contact avec ce qui nous touche dans son œuvre. Ce qui nous touche dans son œuvre, bah, c'est lui.
Ouais.
Donc, cette imbrication, disons, de son image d'acteur, de l'idée qu'on se fait de lui en tant que personne, y compris sur le plan politique, et son talent de cinéaste, tout ça s'imbrique et je crois qu'il en est conscient. En tout cas, c'est ça qu'il travaille.
Alors, ce brouillage des pistes a commencé dès le début avec son personnage de Harry Callahan dans Dirty Harry de Don Siegel. On écoute la première scène de ce premier film.
Callahan. Monsieur, ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Compris ? C'est contraire à ma politique.
Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique.
L'intention ? Elle restait à établir.
Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge.
La grande critique new-yorkaise Pauline Kael, à l'époque, le traitait de fasciste. Celui-ci va, avec son franc-parler raciste et ses méthodes expéditives, pulvériser les activistes et les drogués. Déjà, il se fait une image.
Oui, alors elle traitait qui de fasciste, Harry Callahan
ou ouais, ben un peu les deux.
Justement. Première question.
Justement.
J'ai retrouvé fameusement une critique de Positif sur L'homme des hautes plaines, qui est c'est son premier western en tant que metteur en scène. C'est oui. pas son premier film en tant que metteur en scène, mais son premier western. Et dans cette critique de Positif, qui est une revue qui a beaucoup dit du bien d'Eastwood par la suite,
oui.
Le film était traité de Mein Kampf de l'Ouest. Donc c'est pour dire, ça a été une histoire très longue, cette à cause sans doute effectivement du personnage de Harry. Toutes les années 70 et le début des années 80 ont été la chronique du fait que ce type était soi-disant un homme d'extrême droite.
Et pourtant, on aurait pu dire la même chose sur, par exemple, Bronson avec Un justicier dans la ville.
Mais on l'a dit.
On l'a dit.
Bien sûr, on l'a dit.
Mais lui, peut-être avec une plus de relief parce que c'est Eastwood.
Parce que c'est un auteur, ce qui n'est pas vraiment Bronson.
Mais il n'était pas,
il n'était pas encore reconnu comme tel. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, disons que le brouillage entre son image à l'écran et ce qu'il pouvait véhiculer en dehors de l'écran, il existe dès le départ. Enfin, c'est tout ce qu'on peut dire. Il revient aux États-Unis après les films qui ont fait sa célébrité en Italie, et quand il revient, et ben il joue Dirty Harry. Et c'est vrai qu'il y a eu une mise en parallèle instantanée des choses. Après. Il joue une espèce de vengeur, d'ange de la mort dans plusieurs de ses films. Il joue une l'expression d'une espèce de justice immanente. Alors vous parlez de Bronson, lui c'était la légitime violence, la légitime violence, l'injustice ou je ne sais pas trop quoi.
Ouais.
Chez Eastwood, il y a effectivement ce brouillage, et il va courir derrière ça pendant tellement d'années, au moins 15 ans en tant que cinéaste, pour rattraper cette première façon de le regarder. Il va avoir à régler ça, parce que c'est vrai que on sait tous que c'est quelqu'un qui a été qui est aujourd'hui reconnu de manière extraordinaire comme un immense cinéaste, ce qu'il est évidemment, mais il a dû mettre très très longtemps à justement effacer ou corriger l'image qui était celle de lui en tant que comédien, et en particulier dans le rôle d'Harry.
Eastwood républicain, donc, à cette convention de 2012, la convention républicaine, il parle d'Hollywood en disant ils sont tous à la gauche de Lénine, il fait une conversation imaginaire devant une chaise vide, c'est celle d'Obama, on écoute.
Quand quelqu'un ne fait pas le travail, il faut le renvoyer. De toute façon, je n'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée que les avocats soient présidents. Ok, alors je commence et vous terminez.
C'est dingue, Leo Haddad, parce que cette phrase de Make My Day qu'il n'a jamais voulu redire en dehors de son film... Il la donne à ce congrès, quoi.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
C'est incroyable, d'autant qu'il a été maire républicain d'une ville en Californie, Carmel, dans les années 80. Il a été soutien de quasiment tous les, tous les candidats républicains. Mais il ne s'est jamais dit républicain. Lui, je crois qu'il s'est toujours plutôt défini comme libertarien, ce qui est une philosophie politique particulière très représenté aux États-Unis mais qu'on connaît peu ici, et c'est là que se joue quelque chose de très particulier, qui est ultra conservatrice sur le plan économique, mais qui est ultra libertaire sur le plan des libertés individuelles. Donc
parce qu'hyper
individualiste. Et finalement, c'est son credo. C'est le credo de chacun de ces personnages, et c'est son credo politique. Donc moins d'État. Alors il est favorable au port d'armes, je pense. Il a dit cette phrase géniale sur sur Michael Moore, quand Michael Moore va dans Bowling for Columbine, il sonne chez Charlton Heston, et puis bon, il y a cette scène avec Charlton Heston. Et quand on a posé la question à Eastwood ce qu'il aurait fait, si Michael Moore avait sonné, il a dit moi je l'aurais abattu. dessus. Ouais, bon, c'est il est rigolo. Hein, moi,
il y a beaucoup d'humour. Bah, dans La Mule, par exemple, on le compare. Les gens trouvent qu'il ressemble à James Stewart. C'est pas du tout anodin, parce que James Stewart, c'est quand même l'exemple de l'acteur de la probité dans les films américains, démocrate.
Alors, il n'était pas du tout démocrate,
non,
Stewart.
Non,
il était totalement républicain. Il effectivement.
Il incarnait
cette espèce de
le Parti démocrate.
Eastwood raciste.
Non, mais enfin, on va pas dire ça. De toute façon, même si on le pensait, on le dirait pas. Je le pense absolument pas. Mais ce qui est intéressant en revanche, ça a une part très 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 importante dans le revirement qu'on a pu avoir vis-à-vis de lui. À partir du moment où on considère que c'est, si vous voulez, dans l'histoire d'Hollywood, il y a toujours on a toujours regardé dans les films américains depuis la France. On regarde toujours les films américains avec un peu de suspicion, parce que on sent qu'il y a une part de propagande possible dans le cinéma américain. Forcément. Il y a même une part de propagande inhérente à l'idée même du cinéma américain. Bon. On regarde ça avec beaucoup de suspicion et un certain nombre. Et quand on sait en général, on connaît les préférences politiques des uns ou des autres, et puis on se positionne par rapport à ça. À partir du moment, bon, par exemple, John Wayne, tout le monde sait que c'était un homme de la droite dure américaine, et ça a un impact sur la manière dont on regarde ses films.
Oui.
Pour Eastwood, c'est la même chose, et pendant donc ces 15 premières années en tant que cinéaste, on a pris ça avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Le revirement, je dirais, c'est sans doute Bird.
Oui.
Bird, c'est un des premiers films dans lesquels il ne joue pas. Et c'est un film donc sur Charlie Parker, donc sur un grand artiste noir, et sur la passion d'Eastwood pour le jazz. Et tout d'un coup, il y a cette idée qui se met à diffuser dans la tête de tout le monde que finalement, puisqu'il aime bien le jazz, et ben il serait pas raciste. Non mais c'est totalement primaire, mais c'est comme une imputation d'idée, une inception d'idée qui finalement fait que tout d'un coup tout est pardonné. Ah bah c'est pas grave. Donc il est plus de droite ou il est plus d'extrême droite puisqu'il n'est pas contre le jazz. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé et on s'en souvient. On est de la génération qui peut se souvenir du moment où il y a ce shift. Tout d'un coup, Eastwood, qui est un cinéaste atroce, théoriquement fasciste, misogyne, homophobe, réac, patati patata, tout d'un coup, finalement, c'est un type bien puisqu'il aime le jazz.
On va terminer par là sur son statut d'auteur justement. Mmh. Est-ce que c'est pas la critique française qui l'a élevé à ce niveau-là?
Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Il passe à Cannes avec Pale Rider, c'est juste avant Bird, avec Bird, il est plus ou moins anobli à ce moment-là. Et c'est il y a une petite gradation qui va ensuite vers Chasseur Blanc-Cœur Noir et Impitoyable, qui est le vrai film de la reconnaissance. Ouais. Il l'a voulu, cette reconnaissance, c'est sûr.
Ouais.
Il a raconté beaucoup d'histoires pour se parer de la noblesse qui serait celle des grands classiques américains. Il faut le rappeler, on est tous tout le temps en train de dire le dernier des géants, le dernier ceci, le grand l'héritier de John Ford, etc. Tout ça, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on ressent dans certains de ses films. D'un autre côté, personne ne disait ça sur lui pendant, encore une fois, ses 15 premiers films. Personne. Il n'a pas dans sa filmographie ou dans sa biographie cette légitimité, elle n'existe pas réellement. C'est-à-dire que il n'a pas joué chez Ford, il n'a pas joué chez Hawks, il a joué chez personne. Donc il a joué chez Sergio Leone, donc presque le contraire, et chez Don Siegel. Donc c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il s'est paré de cette noblesse-là.
Il y a tant de choses à dire. En tout cas, il faut aller voir son dernier film, La Mule, qui sort mercredi prochain. Merci Léo Haddad, merci Laurent Mauvigny. Vous restez avec nous, bien sûr, Laurent Mauvigny, pour continuer votre livre, qui est édité aux éditions de Minuit, Minuit Double, petite collection tellement il a bien marché, et le film de Joachim Lafosse, mercredi prochain. On se retrouve pour les sorties de ce mercredi, après Anderson .Paak. Let me get that intro. Blunts, gators, hand me my mink. On the east, ducking fans from a peephole. 1989, gangbanging was at its peak. This the beat that make me reminisce on G-Phone. 3 summers before the chronic hit the streets. I would rather sling hand to hand to a fiend. Rapping on the side, trapping was priority. But every now and then, I go scoop my little thing. Pull up in my MC, banging new jack swing. Ooh, summertime time back in Long Beach. Passing one bottle 40 ounce OE. I didn't have a dollar.
dollar, but a nigga had a dream. Whipping over the stove and a nigga gotta eat. Threw my raps in the garbage, fuck being an MC. Thank the Lord for Nate Dogg and thank God for Warren G. Funny how time flies when you're high as me.
I think I'm in the rough fence now. I seen her throwing up edge down. You was living off a true heel. Wasn't ready for the world, but baby, who is? Know you prettier than all the elder bodges. Never worry about the total of the charges.
On va commencer ces sorties par un film dont on a parlé effectivement la semaine dernière, Double Vie d'Olivier Assayas, Laurent.
C'est un film que j'ai envie de vous recommander, Laurent Mauvignier, parce que c'est un film qui se passe dans le milieu très germano-pratin de l'édition parisienne. Il y a Guillaume Canet qui pourrait être le directeur des éditions de Minuit, c'est vraiment ce genre-là. Et il est formidable, comme est formidable Vincent McCain, Juliette Binoche et Nora Hamzaoui qu'on a reçu ici. On fait un peu trop facilement de Assayas un cinéaste bobo moderniste, alors qu'en fait l'adaptateur de Jacques Chardon avec les dessinées sentimentales avait fait un très beau film. Et là, c'est un film merveilleux sur ce petit cosmopolite parisien mais qu'il traite à la Guitry et à la Remer, et ça fait un film tout à fait réjouissant.
The Front Runner de Jason Reitman, l'histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, idole des votants américains et favori pour l'investiture démocrate de l'élection présidentielle de 88, finalement gagnée par Bush. Une ascension fulgurante qui fut brutalement stoppée par la révélation d'une liaison avec une certaine Donna Rice. Voilà du cinéma politique américain comme on n'en voit plus, bavard certes, mais extrêmement précis, sobre, sur d'abord les coulisses d'une élection, le démontage d'un candidat par la presse sur sa vie privée. À la différence des hommes du président, au plus près de nous, de Pentagon Papers, qui mettaient en scène les pro-chevaliers de la presse, dans The Front Runner, ce sont eux les fauteurs de troubles, et la démonstration, si elle est classique, reste très efficace, avec de très bons acteurs, Hugh Jackman, très étonnant, Vera Farmiga, et J.K. Simmons, The Front Runner. Malais en son exil, de Denis Gerbrandt. Malais nettoie les bureaux, sort les poubelles et vit dans un foyer. Malais explore avec le cinéaste son monde, le monde qu'il a emporté avec lui et qui le structure. Il est resté avec lui 5 ans, tandis que lui, Malais, n'a pas vu sa femme depuis 7 ans.
C'est vrai. Alors le sous-titre en quelque sorte du film, ou en tout cas l'exergue, c'est Malais d'Oukara, filmé par Denis Gerbrandt, et c'est important cette façon pour Denis Gerbrandt de dire les choses, parce que il est au plus près de son sujet, mais qui n'est justement pas un sujet, qui est d'abord aussi un ami. Au bout de 5 ans, c'est normal, et un ami qui parfois dit n'importe quoi, et notamment sur les femmes, sur la condition féminine, sur l'égalité homme-femme. Il dit des horreurs, il dit des choses abominables, et il a des comportements aussi. C'est un immigré malien, qui sont pas forcément très clairs sur la façon dont il gère son exil ici en France par rapport au Mali. Bref, c'est pas qu'un personnage recommandable, et ça c'est très intéressant, parce que Denis Gerbrandt, le réalisateur, noue avec lui un vrai dialogue, sans rien cacher de leur divergence, sans rien cacher de ce qui fait leur différence, et en même temps, évidemment, on ne peut être que touché par ce portrait d'un homme en exil sur cette terre de France qui est la nôtre, mais qui n'est pas la sienne. C'est un vraiment très très beau film, ça s'appelle Malais en son exil.
Colette de Wash Westmoreland, 1893, Colette épouse Willie. Écrivain aussi égocentrique que séducteur, grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Willy autorise Colette à écrire à condition qu'il signe ses romans à sa place. On connaît cette histoire. Un regard anglo-saxon donc sur cet épisode, c'est intéressant. Keira Knightley très impliquée, mais un résultat pas très audacieux.
Bah oui, puis Keira Knightley, je vais y arriver, pardonnez-moi. En Colette, c'est quand même, là, on veut bien croire à beaucoup de choses, mais il manque les roulements de R à la Bourguignonne, et puis elle est un peu trop, quoi, voilà. Mais bon, c'est comme ça.
Attends, il y avait Audrey Hepburn dans Gigi.
C'est vrai. Bon, bah, une fois qu'on a dépassé ça, qu'est-ce qu'il reste? Bah, il reste un ticket d'entrée pour le musée Grévin, c'est-à-dire, c'est vraiment ça. Ce sont des scènes, les unes après les autres, qui donnent l'image tout à fait convenue, convenable, pas tout à fait respectable de Colette, mais pour quelqu'un qui, à la fin de sa vie, disait « je supporte de moins en moins la littérature », c'est du Colette. Voilà quelque chose qui n'est absolument pas montré dans le film, et c'est bien dommage. Colette, c'est la pionnière de l'autofiction. On aurait aimé avoir un peu plus de choses à se mettre sous la dent avec ce film.
Aïka, qui était présentée en compétition à Cannes cette année, du russe Sergei Dvortsevoy. Aïka vient d'accoucher, elle ne peut pas se permettre d'avoir un enfant, elle n'a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même pas une chambre à elle, c'est un peu une Rosetta kirghize. Virtuosité des mouvements de caméra, mais pour parvenir à quoi? Un misérabilisme esthétisant, une épreuve aussi pour nous spectateurs prisonniers de ce dispositif étouffant qui crée plus l'ennui que l'empathie. D'ailleurs, cherche-t-il l'empathie, ce metteur en scène?
Non, pas du tout. Je crois qu'il cherche effectivement la référence aux frères Dardenne techniquement est justifiée, mais là, c'est un tel sentiment d'étouffement. Alors évidemment, l'actrice principale a reçu le prix d'interprétation à Cannes. On ne cesse de nous dire, d'ailleurs, à l'unanimité, je trouve ça un peu bizarre, cette façon de nous répéter à l'unanimité, parce que ça veut dire que d'autres ne l'ont pas eu à l'unanimité. C'est un peu embêtant. Moi, je serais à leur place, je serais pas très content. Mais enfin bon, ça n'est pas une vertu de le recevoir à l'unanimité. C'est juste un constat. Alors oui, pour elle, on peut aller voir le film, mais il faut vraiment accepter cette lourdeur et cet étouffement.
L'incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier, fin 19e. Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie. De leur union naît Alice, pour cet enfant qu'il aime plus que tout. Il se jette alors dans un pari fou, lui construire de ses propres mains un incroyable palais. À l'intérieur de ce film, Laurent, un acteur totalement habité par son personnage taiseux, Jacques Gamblin.
Oui, alors bon, le facteur Cheval, c'est quand même quelqu'un qui a vécu 10 000 jours, 93 000 heures, soit 33 ans de sa vie à construire un palais de ses propre main, avec n'importe quoi. On a l'impression que c'est une sorte de temple d'Angkor à Haute-Rive dans Drôme. C'est quand même incroyable. Et ça fait un film d'une platitude. C'est beau, c'est très beau. Les paysages sont magnifiques. On a tout de suite envie d'aller à Haute-Rive, dans la Drôme, voir ou revoir tout ça. Mais franchement, c'est le portrait d'un dingue qu'il aurait fallu faire, car ce type était réellement un dingue. Il est d'ailleurs un peu autiste. Ça s'est un peu montré dans le film. Mais à force de cligner des yeux, Gamblin en donne un portrait assez curieux. Non, franchement, c'est en retrait de ce que ça aurait pu être, c'est-à-dire effectivement le portrait d'un fou furieux habité par un projet.
Et puis finir sur un film qu'on a également évoqué la semaine dernière avec sa réalisatrice Eva Ionesco. C'est une jeunesse dorée, pas si dorée que ça. C'est la sienne dans les années Palace qu'elle reconstitue. Je trouve ça assez beau et courageux de reconstituer sa vie de cette façon-là dans un film un peu dingo avec Isabelle Huppert, Melville Poupeau notamment et Galatea Bellucci et le fils d'Eva Ionesco, une jeunesse dorée. Sinon, Laurent, il faut annoncer un cycle.
Oui, à nos auditeurs parisiens, du 16 janvier maintenant au 28 février, au Forum des Images, France des années 80, on dirait un titre de Michel Sardou, le cinéma soigne son look, de Léos Carax à Truffaut, d'Assayas à Piala, de Romère à Téchiné, en passant par Fraud Coutaz, et ça c'est plus rare et c'est très bien aussi. Ouais. Eh bien, le cinéma s'intéresse donc à cette période-là. Il y a aussi des cours, des conférences et un hommage à Pascal Augier.
Et ça commence aujourd'hui.
Aujourd'hui, jusqu'au 28 février,
Pascal
Forum
Augier,
des Images à Paris.
Qui est à l'affiche d'un livre, un très beau livre écrit
magnifique,
par sa sœur Émeraude.
Absolument, tout à fait. Magnifique.
Et sinon, on va finir par nos cadeaux.
Mais
alors.
Oui, Laurent Mauvignier, on a choisi de vous offrir Invasion, qui est le dernier film en date du prolixe cinéaste japonais Kiyoshi Kurosawa. Invasion, le sous-titre Rien n'est plus étrange que l'humain, mais ça c'est du sous-titre. Mais pour le raconteur d'histoire que vous êtes, je pense que vous apprécierez ce film si vous ne l'avez pas vu, car c'est l'histoire des êtres humains qui sont en train de perdre leurs émotions. Oui, voilà, donc c'est pas mal quand même. C'est paru chez Arte Édition avec un livret de 12 pages. Vous verrez, c'est du très beau cinéma.
Vous l'avez vu, Léo Haddad, ce film?
Oui.
Alors
Ben, je vais pas lui, il faut pas spoiler, parce que Laurent, il faut,
non, le... faut rien ah, spoiler. Va... Merci.
C'est un joli cadeau.
Bon. Et pour vous, Léo Haddad, une découverte, mais oui, une découverte absolue, Les Chasses du comte Zaroff, qui
ah oui, c'est vrai, c'est de la découverte.
Ah, la découverte, vous connaissez pas, hein. Non, mais c'est une très très belle version restaurée qui vient de paraître chez Lobster.
Génial.
Film extraordinaire, tourné au même moment que King Kong avec des décors et une.
Par les mêmes gens.
Par les mêmes gens, et ça donne un film absolument culte qu'on revoit avec un noir et blanc sublime, et le DVD fait grâce à ce
accompagné
cette
d'un petit
oui d'un petit pins on a ah, pensé les
voilà c'est ça look. C'est très ah, radiophonique
il y a quoi dans le pins
merci ben, beaucoup vous allez voir
vous allez voir
sûr merci beaucoup à tous les deux merci Laurent Mauvignier vraiment pour votre livre continué aux éditions de Minuit et pour ce film de Joachim Lafosse qui sort mercredi prochain merci beaucoup Léo Haddad pour cette lecture très passionnante d'Eastwood c'est à vous pour le générique je vous fais signe
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des écrivains.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Céline Hilla.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Léonard Haddad, j'y étais.
Et moi, Laurent Mauvignier, j'y étais.